parti.
Chers amis de Radio Maria, en ce temps de Noël, bonjour l'esprit sportif dans la foi dans le monde du sport. Je suis très heureux de terminer cette année avec vous pour tout échanger, toujours de façon libre, soutenue, avec un rythme toujours haletant sur cette joie sportive qui vivifie notre vie de foi, et puis cet amour aussi du monde du sport, cet amour du rythme, cet amour des sportifs, et en nous laissant vraiment conduire par ce souffle qui nous fait poser un pas avant l'autre. Et c'est un peu tout ça, le sport, et c'est pour ça aussi que je suis très heureux d'avoir ce compagnonnage avec vous, chers amis de Radio Maria, sur cette thématique qui est présente sur vos ondes déjà depuis un peu plus de 2 ans. Vous savez, je redis souvent cette phrase de Don Bosco quand il rencontrait ses éducateurs. Il leur disait « Aimez ce qu'ils aiment, ils aimeront ce que vous aimez ». Et alors que les événements sportifs et les joies et les déceptions sportives rythment notre humanité, rythment aussi peut-être nos discussions familiales, on le verra dans les échanges à Noël, eh bien, il y a un authentique enjeu missionnaire à rejoindre ce monde du sport, à rejoindre ces athlètes, ces sportifs, pour annoncer avec délicatesse, avec subtilité, parfois avec force, le nom de Jésus, le nom de Jésus Sauveur, parce que ces sportifs, ils ont appréhendé dans leur corps, à travers l'effort, à travers le sacrifice, à travers le dépassement de soi et à travers aussi la souffrance, peut-être une forme de solitude. Ils ont compris, quand on leur parle dans l'intimité des vestiaires, quand on leur parle de leur carrière, de leurs doutes, de leurs errements, beaucoup ont compris qu'il y avait un au-delà de la performance, il y avait un au-delà même de la finitude humaine. Et c'est là que, pour reprendre une phrase de Peggy, que le christianisme s'intercale dans les interstices, les fragilités de nos vies. Et beaucoup de sportifs revendiquent de façon assez claire une part de vulnérabilité. Et c'est pour ça aussi que ce dialogue un peu écuménique entre le sport et la foi se déploie depuis peu de temps, de façon prophétique sur les antennes de Radio Maria, et puis dans le cadre de ces Jeux Olympiques. Vous avez entendu parler de ce programme Holy Games, d'accompagnement de l'Église auprès du monde du sport, donc à différents points de vue, à travers cette Église de la Madeleine à Paris, avec cette chapelle Notre-Dame des Sportifs, à travers des événements sportifs. Vous verrez des petits bonhommes jaunes avec un t-shirt Holy Games qui appellent à la sanctification, qui sont autant de points de contact et de témoignages missionnaires. Et puis, à travers des événements comme le 16 mars prochain, en 2024, il y aura le jour un peu autour de la Saint-Joseph. Il y a une équipe qui s'appelle le Variété Club de France qui accueille beaucoup d'anciens internationaux, mais il peut y avoir Zinedine Zidane, Franck Leboeuf, Christian Carambeu. Eh bien, figurez-vous que le 16 mars prochain, ils joueront contre une équipe de prêtres. Et oui, une équipe de prêtres qui a été sélectionnée, qui vient plutôt d'Île-de-France. Et ça sera un point de contact intéressant, ça sera vraiment l'occasion, sous la houlette du célèbre journaliste sportif Jacques Vendroux, ça sera l'occasion d'un témoignage explicite, transpirant, suant sur le terrain de sport, mais en tout cas d'un lien entre le monde du sport, d'anciens, une gloire sportive, et puis le monde de la foi, et ce sacerdoce des hommes qui ont tout donné pour donner Jésus au monde. Voilà, donc ça sera on pourra prier pour eux, ça sera le 16 mars prochain. Et puis je vais commencer ma petite rubrique habituelle, où on va parler des lieux de culte. Autour de Noël, on est dans ces temps de Noël, on m'a dit récemment qu'il y avait quasiment près de 30% de la population qui rentrerait dans les églises catholiques pour la messe de minuit et autour. Donc on a encore cette visibilité du monde catholique, même si entre 1,5% et 2% de la population française pratique une fois par mois. Autour de Noël, comme aussi autour de la Toussaint, eh bien, pour des questions culturelles, peut-être aussi des questions parfois de superstition, on n'est pas là pour juger ce qui mobilise les gens et ce qui les fait rentrer dans les églises, mais en tout cas, il y aura ce jour-là 20-30 fois plus de monde dans les églises, et je crois que c'est une opportunité merveilleuse ce jour-là pour chanter avec encore plus de force, et puis pour peut-être pour encourager aussi nos prêtres à avoir des paroles de feu, en posant des bonnes questions, les questions qui vont toucher le cœur, qui vont mobiliser aussi l'esprit, en disant, voilà, en interpellant avec tendresse, avec douceur sur la finitude de notre existence, sur le sens de la vie, sur l'importance de l'amour dans les relations qui peuvent nous unir. Et je crois que voilà, c'est un temps et c'est un moment missionnaire. Et ayons en tête que c'est formidable de faire des grandes évangélisations de rue. Il y a aussi encore des opportunités qui amènent les gens à rentrer spontanément dans les églises. Et c'est autant d'opportunités et autant d'occasions d'accompagner ces personnes vers le Christ. Voilà, en nous faisant transparent du Christ pour faire en sorte qu'il y ait d'autres moments de rencontre. Et je suis convaincu que le Seigneur parlera à travers nous et qu'aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'en parler avec le. Récemment, ça m'a beaucoup marqué avec le nouvel nouveau cardinal évêque d'Ajaccio. Pour différentes raisons, il y a de façon visible ou invisible des millions de personnes qui sont sur le parvis de nos églises. En ces temps difficiles, il y a cette peur. On voit les événements du Proche-Orient qui peuvent s'importer en France. Il y a cette montée d'une forme d'islamisme radical. On voit une oumma musulmane qui est aussi sensible des épopées pseudo-héroïques de certains terroristes islamiques. Et puis, il y a aussi une société mercantile, matérialiste, qui fondamentalement assèche le cœur de l'homme. On essaye, et nos hommes politiques essayent comme ça un peu de calmer la marmite. En hypnotisant les gens avec de la soupe hédoniste, avec des séries, avec une surconsommation de masse, et le temps de Noël évidemment s'inscrit dans ce contexte, mais fondamentalement, on voit que le cœur de l'homme reste sec, et même dans nos communautés chrétiennes, tant qu'il n'est pas nourri par quelque chose de supérieur. Et cette quelque chose de supérieur, c'est une personne, c'est Jésus. Qui vivifie nos liens et qui met beaucoup plus de densité, de tendresse et de confiance dans les relations entre les hommes. C'est comme dans une équipe sportive, il y a un moment où pour recevoir, il faut beaucoup donner. Et récemment, j'étais au Stade français et il y a eu un très beau match, un match très âpre contre une équipe anglaise et il y a eu une passe décisive et j'ai vu vraiment sur le terrain, j'étais à 50 mètres. Celui qui a fait la passe, celui qui est passé entre ces deux joueurs anglais pour passer ses bras et faire cette offrande de la balle à l'ailier, eh bien, il a bondi de joie, il a vraiment partagé, il a surabondé au bonheur de l'autre. Et je crois que dans nos liens en société, dans ce temps de Noël où on va se retrouver en famille, ayons cet esprit un peu chevaleresque de celui qui fera cette passe, qui va s'oublier lui-même pour contribuer au bonheur de l'autre. C'est tout ce que je nous souhaite. Alors, on va replonger un peu sur le terrain du sport et de la foi. Les envolées des commentateurs sportifs, on le voit, que ce soit dans les écrits, quand on lit l'équipe, la Bible du sportif, mais quand on regarde aussi des événements sportifs, et bien ils puisent toujours avec une certaine gourmandise dans le vocabulaire religieux. On parle beaucoup de la ferveur des supporters qui vont communier à la grande messe du football. Ferveur, communion, grand-messe. Et c'est comme si aujourd'hui, finalement, cette postmodernité, avec ses enjeux mercantiles, ses enjeux de merchandising, d'audimat, etc., cette postmodernité va faire comme un transvasement de population. On va utiliser, on va falsifier, on va parodier le vocabulaire chrétien. Et on voit aussi de plus en plus les nefs des églises qui vont un peu se vider, s'alléger pour aller vers les travées des stades. On voit qu'il y avait des ex-voto dans nos églises. C'est comme si aujourd'hui les ex-voto, on les retrouvait dans les panneaux publicitaires de nos enceintes sportives. C'est comme si les transepts devenaient aujourd'hui la rangée F de la porte G, de la rangée 12 du gradin C. Il y a comme une migration de nos enceintes religieuses vers ce néopaganisme paganisme dénoncé par le philosophe Redeker dans ses nombreux pamphlets contre la dérive sportive. Il le répète et il le dit, le monde est un stade avant d'être un marché, ou plutôt parce qu'il est un stade, il peut être un marché. Et là où je vais plus loin, c'est que je pense que ce marché-stade, ce stade-marché est venu aussi un peu siphonner nos églises en parodiant une forme de liturgie, en parodiant un sens du sacré. Le sport-spectacle, il est populaire parce qu'il est matiné de sacré. Et les concepteurs du sport-spectacle le savent et en jouent. C'est une religiosité qui n'est pas toujours du meilleur goût. Il y a un peu du toc, du fric, du kitsch. On voit toutes ces couleurs un peu flashy, un peu rose. Et les promoteurs du sport-business, ils connaissent et ils ont intégré ce besoin un peu antique de se rassembler en chœur au sein de ces nouveaux cénacles, hein, plein de béton, autour de joueurs qui vont être comme des apôtres, qui vont rentrer en procession et qui vont apporter finalement un peu aux fidèles, et je dis le mot fidèle à dessein, eh bien l'émotion, la grandeur, la beauté, l'épopée dont ils peuvent avoir besoin. Le stade est comme devenu un temple pour y célébrer la liturgie sportive. C'est le lieu du jeu, c'est un espace séparé avec ses codes et ses rites. C'est comme une zone franche entre le sacré et le profane. L'ancien président du club de Toulon, Mourad Boudjelal, j'ai eu un jour l'occasion de le rencontrer, il livrait son secret et il disait la chose suivante. La différence avec les autres clubs, c'est qu'ici à Toulon, ce n'est pas un stade que nous avons, c'est une église. Et il dit cette chose-là, et on ne quitte pas une église comme cela. C'est-à-dire qu'il a compris que les supporters devaient être des fidèles. Il a compris le besoin populaire de se regrouper autour de son clocher. Il a saisi l'attachement aux traditions populaires. Et ça, c'est une tradition populaire très forte autour de ce stade Mayol. Il le disait, reprenant un peu la phrase de Blondin, « Le stade est une cathédrale de vent ». Il a compris qu'il fallait de l'émotion, et cette émotion se transmet et se vit par une mémoire partagée. Celle d'ouvrir le match par l'hymne local, repris en chœur par la foule. Il s'appelle le pilou-pilou. Cette tradition d'accueillir les joueurs qui arrivent en procession avec énormément de clameurs, comme les fidèles qui vont accueillir la procession des clercs dans une cathédrale. La tradition et la ferveur de déchirer les journaux et de projeter tous ces morceaux éparpillés dans les tribunes pour montrer que la seule activité qui vaille est celle qui se joue sur place dans l'enceinte du stade. L'enceinte, le ring, le court, le bassin, la piste sont un peu comme le cœur des églises, comme la clôture des monastères. Seuls les célébrants y pénètrent. Les célébrants, ce sont les athlètes, les juges, les liturges, les prêtres, tous ceux qui se préparent au sacrifice dans l'intimité du vestiaire, dans l'intimité de la sacristie. Les jeunes ramasseurs de balles s'agitent le long du terrain comme les clercs circulent autour de l'autel, comme les grands enfants de chœur. Ils ont été initiés, ils ont été élus pour servir à cette grande liturgie. Dans le sport comme dans la pratique religieuse, en de grandes occasions, la foule se presse pour assister au rituel des grandes cérémonies. Les cathédrales, les stades, les arènes géantes accueillent ce peuple qui fait corps et se retrouve lorsque tous les calendriers liturgiques les y convoquent. C'est la Toussaint, c'est Noël, c'est Pâques, ce sont les finales nationales, ce sont les compétitions internationales. Tout doit s'inscrire dans la mémoire des supporters, dans la mémoire des fidèles. Et dans tous les cas, quand on est dans l'espace du sacré, quand on assiste à cette liturgie sportive ou à cette liturgie religieuse, eh bien il y a une musique qui nous élève le cœur, qui nous élève l'âme. Et dans les stades, on a les baffles de l'enceinte qui nous délivrent en quelque sorte leur cantique. Et puis et les fidèles, les supporters vont s'époumoner. Et il y a les connaisseurs les plus fervents qui vont, peut-être être moins dans cette ambiance des méga-church ou des grands stades, mais qui vont être plus dans la routine hebdomadaire des rassemblements un peu plus frugaux et spartiates, plus intimistes. C'est le fidèle qui va dans la petite église, ou bien le sportif du dimanche dans une petite ville de province qui va dans les stades municipaux défraîchis. Il y a un esprit beaucoup plus champêtre et enraciné. On est loin du bruit et de la fureur des méga-church ou des grands stades, ou du Stade de France. Les fidèles qui aiment un peu le sport plus roots, en quelque sorte, avec plus de racines, ou comme les fidèles religieux qui sont peut-être plus profonds, qui sont sur un temps un peu plus lent, ils veulent approcher le mystère, ils veulent y goûter, ils veulent se rapprocher physiquement pour mieux voir, mieux percevoir. on y respire davantage l'odeur de l'encens, ou bien dans les stades de rugby, vous savez, ce bruit des crampons et l'odeur du camphre, ou bien dans les petites églises, les tintements de l'encensoir. Dieu parle toujours dans les silences d'une brise légère. Donc ce rapprochement qui est un peu suggestif entre le monde du sport, le monde de la foi, on passe des grandes finales de Ligue des Champions et des grands rassemblements des JMJ à ces petits rassemblements beaucoup plus intimistes, j'allais dire qui va parler au cœur des amateurs. Et un jour, il y a le pape François, en parlant au monde du sport, avait eu cette expression, il a dit « il faut retrouver dans le sport l'esprit d'amateurisme. L'amateur, c'est celui qui ne joue pas pour de l'argent et fondamentalement, c'est celui qui aime ». Alors comment, ce qui est toujours intéressant, on parle beaucoup d'évangélisation, mais on peut dire aussi comment est-ce que, quand on aime le sport, on goûte ces premiers moments d'attachement au sport. Et la découverte du stade commence toujours, et ça tous les sociologues le disent, par un processus d'initiation. C'est un peu un relais transmis, comme de père en fils, d'ami à ami. Le premier souvenir du jeune supporter s'inscrit un peu dans le marbre de son esprit, à tout jamais. Le premier club qu'il est allé soutenir sera le club de son cœur, à tout jamais. Moi, j'ai vécu à Bordeaux, j'ai vécu à Marseille, je survis à Paris, mais le club de mon cœur est le Stade Rennais, là où j'ai grandi jusqu'à 18 ans. On continuera à en suivre les exploits, on en partagera les souffrances. L'enfant progresse dans le stade quand on est petit. Vous savez, il y a toujours ce moment d'émerveillement. Et quand on rencontre des nouveaux convertis, c'est assez intéressant. Nous, on baigne dans le monde de la foi, mais le nouveau converti va souvent nous parler de sa découverte d'une liturgie, que ce soit dans un monastère ou dans une très belle liturgie. Et il va goûter à énormément de choses. Ça va être le bruit, ça va être le bruit de l'orgue, ça va être l'entrée des prêtres, ça va être le tintement le tintement au moment de l'élévation des clochettes. Et parfois, nous, on connaît tellement qu'on ne le comprend pas, on ne le voit pas. Mais ce sacré, il rentre comme ça dans notre corps, notre esprit, notre âme, avec tous nos sens qui sont sollicités. Quand un enfant découvre le stade pour la première fois, il va progresser doucement. Il va voir une lumière au loin. Il va entendre un bruit, il va entendre une clameur. Et puis, il va se rapprocher. Et souvent, il a 6-7 ans, il va tenir la main de son père ou bien de ce cousin ou de ce grand frère qui va lui faire découvrir les exploits sportifs dans cette enceinte. Il va voir un filet de marcheurs qui sont autant de pèlerins qui vont converger, souvent avec un drapeau à la main, avec des bonnets, avec des écharpes, comme si ils avaient un langage commun, il y a des codes communs. Et puis progressivement, plus on va s'approcher du stade, plus la clameur va être forte, plus on va entendre des bruits comme ça, il va y avoir une lumière de plus en plus vive et puis une marée qui va se densifier pour se déverser un peu dans la coupole. Et il y a une excitation. La petite foulée de l'enfant va s'accélérer au rythme du battement de son cœur. Et un jour, il y a même des commentateurs, et c'est très drôle parce que j'ai beaucoup lu sur le sport et la foi, qui ont même osé, ça va vous faire rire, qui ont même osé comparer l'attraction du stade d'un petit enfant qui va se rapprocher comme ça d'un stade le jour d'un grand match, vers ce que devaient ressentir les bergers à la crèche de la nativité, avec une lumière dans l'obscurité, en sentant que quelque chose se vit, et on est comme attiré par cette lumière au milieu des ténèbres. C'est cette lumière dans la nuit qui va attirer. Les supporters donc sont en quelque sorte comme des bergers, ils vont monter les marches, et le petit garçon veut courir, mais il attend. Son père lui tient la main, il va un peu réfréner cette énergie, cette envie de plonger et puis de voir ce spectacle. Et puis il va entendre le bruit des tambours qui vont se faire de plus en plus lourds, la clameur se propage, tandis que la sonorisation va déverser ses décibels. Il voit cette lumière derrière l'accès protégé par le stadier qui contrôle les billets. Un ultime cerbère qui va vous montrer que vous accédez à un espace sacré, qui n'est pas pour tout le monde, il y a ces filtres comme ça. Et puis, il y a la découverte de la pelouse, d'un vert très très vif qui va briller au feu des projecteurs. Alors, on peut se dire, le vert, c'est celui de l'espérance et c'est celui de cette foi en un scénario toujours unique. Le jeune supporter, il va, avec ses yeux d'enfant de 7-8 ans, il va admirer ses joueurs qui vont pendant l'échauffement, qui sont détendus, qui vont un peu chatouiller la balle, comme on dit, pendant l'échauffement d'avant-match, avant la vérité de l'affrontement. Et puis là, l'imagination s'agite, il voudrait en être. Dans sa tête, il dévale, il a revêtu, il a pris le maillot de ce joueur de l'équipe de France. Et pour lui, l'enfant, voilà, il est sur le terrain. Ça y est, il est avec ses équipiers démarqués. Il court vers les yeux, rivé vers le ballon. Ça y est, il a vu le trou dans la défense, il a reçu la passe, il a contrôlé, il a armé sa frappe. Et c'est lui le champion. C'est lui le champion, c'est lui qui a marqué le but dans ce stade en fusion. Et tous les grands champions ont vécu ça. Ont vécu ce moment où ils sont des petits supporters, ils ont assisté à ce spectacle sportif merveilleux et ils se sont vus sur les terrains à la place des champions courant, donnant toute leur énergie pour faire gagner l'équipe et puis un jour recevoir cette coupe. Et un grand joueur de rugby, Serge Betsen, qu'on appelait la faucheuse, qui a rappelé un jour, justement, jeune garçon, il a foulé la pelouse du Parc des Princes et il se fit cette promesse un jour d'y revenir en habit de lumière, de jouer sur ce terrain. Il était ramasseur de balles, voilà, dans l'anonymat, c'est un petit garçon de Neuilly-Plaisance. Il était à son stade de rugby et un jour il s'est dit, c'est moi qui jouerai ici. Et ça a mobilisé tout son être, toute son énergie en se faisant cette promesse à lui-même qu'il serait un champion. C'est la puissance de la mémoire du petit corps de l'adolescent et qui a fait naître cette vocation de champion. Et puis ce souvenir d'avoir été initié et puis d'avoir vécu un moment émotionnellement extraordinaire avec des gens qu'on aimait et d'avoir découvert un sport et une expérience dingue. Et quelque part, et maintenant je vais replonger un peu dans notre vie chrétienne, après ce basculement dans la découverte d'un événement sportif majeur, finalement dans nos églises, dans nos monastères, il existe ce privilège, peut-être insuffisamment exploité, qui consiste à proposer à des garçons, qui sont un peu des élus, de porter cette tunique et d'assister à la liturgie dans le cœur. C'est le privilège de pouvoir goûter au mystère de près en immersion. C'est le privilège d'un petit garçon de pouvoir parler avec le célébrant, d'accéder à la sacristie avant la messe. Le privilège d'aller là où sa maman, même sa maman, ne peut se rendre. Ce privilège de l'enfant de revêtir le maillot du match, ça va être son aube de servant d'autel. Ce privilège pour cet enfant de cœur, cet élu, de porter le cordon comme un judo porte sa ceinture du kimono, ce privilège et cette élection d'être peut-être un jour, quand on est dans un monastère, être invité à déjeuner à la table des moines. Et ce privilège, enfin, et je l'ai vécu, de pouvoir se rapprocher de l'autel, d'encenser le Saint-Sacrement, ce privilège et ce service de pouvoir, à partir du cœur, d'aider à la prière des fidèles. Et je me souviens jeune. On était un groupe comme ça d'amis, turbulents. On aimait énormément le sport. On arrivait souvent dans le cadre de retraite, les genoux écorchés. Et puis le prêtre, ben, voilà, il proposait à 5-6 d'entre nous de revêtir l'aube. Et puis dans ce moment, après les vêpres d'adoration du Saint-Sacrement, eh bien, de nous mettre à genoux aux quatre coins de l'autel. Et puis il nous disait, vous êtes proche du roi des rois. Vous êtes au cœur de la célébration de ce mystère et nous devons nous rapprocher du Seigneur. Et ça, je me souviens, on se rapprochait du Saint-Sacrement, on avait ses genoux un peu calés dans le marbre de l'escalier et puis ça nous a aussi fait participer par anticipation au miracle eucharistique quand nous-mêmes, après avoir adoré le Saint-Sacrement dans l'hostie, dans l'ostensoire, merveilleux objet, et bien se dire que nous recevons Jésus dans la Sainte Eucharistie et nous devenons nous-mêmes ce tabernacle, personne sacrée et doublement sacrée parce que nous accueillons en plus Jésus physiquement. Et bien tous ces temps un peu de proximité avec le sacré. J'ai fait un peu ce développement sur l'âme de l'enfant qui rentre dans le stade. Eh bien, c'est ce qu'on peut vivre, et c'est ce qu'on doit quand on est prêtre, quand on est peut-être engagé auprès des enfants de cœur. C'est ce qu'on peut faire vivre aussi à des jeunes enfants. Ce sont c'est un peu un petit rituel d'élection, d'initiation pour marquer la mémoire du corps et puis rapprocher aussi le cœur de notre Seigneur. Arsène Wenger, qui aujourd'hui s'occupe du développement international du sport au sein de la FIFA, de la Fédération internationale, il rappelait que le football en Angleterre, il a été l'entraîneur mythique d'Arsenal pendant plus de 30 ans. Il disait que c'est une vraie tradition locale, c'est presque un vrai produit local. Il disait la chose suivante, la fidélité du supporter à son club se vit comme un baptême. un acte de foi durant toute une vie. Et là encore, il pioche un peu dans le vocabulaire religieux, mais il se vit comme un baptême. Donc c'est ce moment un peu d'initiation et un acte de foi durant toute une vie. C'est-à-dire cet acte de foi, eh bien, il se travaille. Et ça veut dire que ce monde du sport, quand on dit un acte de foi durant toute une vie, ça doit nous inviter, nous aussi baptisés, à comprendre. Et en lisant récemment le livre d'entretien du cardinal Bustillo, il nous disait quelque part, nous chrétiens, on pensait que évidemment le point zéro de notre vie de foi, c'est le baptême, mais on pensait, voilà, on était marqué, mais on a pu oublier l'importance, et c'est important dans nos actes missionnaires, en se disant, bah, c'est pas uniquement quand la personne loin de l'église à la périphérie est baptisée que ça se joue, c'est-à-dire que derrière cet acte de foi, il doit se répéter toute sa vie. Il doit se répéter dans les sacrements et il doit se répéter dans la formation et dans la catéchèse. Et il me semble qu'on a un peu oublié de catéchiser aujourd'hui dans nos paroisses. Un ami prêtre me disait la chose suivante, il m'a dit, finalement, quand je suis rentré au séminaire, je suis rentré fondamentalement, comme tous les séminaristes, pour sanctifier le monde. Et vous savez que l'évêque, comme quelque part les prêtres, il a trois munera, il a trois devoirs. Le premier devoir, ben, c'est de sanctifier. Le deuxième devoir, c'est sa mission, c'est d'enseigner. Le troisième, de gouverner. Et cet ami prêtre me disait, ben, moi, j'ai réalisé que j'ai donné ma vie au Seigneur pour sanctifier, et aujourd'hui, je ne fais plus que gouverner. J'administre en quelque sorte ma paroisse. Et du coup, ce prêtre-là, voyant que c'était un peu desséchant et épuisant, il a un peu basculé et il a fait deux petits changements dans sa vie de prêtre. La première chose, c'est qu'il a réalisé que ses fidèles ne le voyaient plus prier. Et donc, il a décidé, avant la messe, de proposer, d'abord tous les matins en semaine, il y a une demi-heure d'adoration, et il adore le Saint-Sacrement devant et avec ses fidèles, comme un père de famille aujourd'hui doit prier en famille, devant et avec ses enfants et pour ses enfants. Et puis avant la messe dominicale, eh bien, ses fidèles prient avec lui. Et il est là en prière au pied de l'autel et il prie pour la messe, il prie pour ses fidèles. Et il travaille quelque part sa vie de prière. Il n'est pas dans la célébration mécanique des sacrements, mais il va montrer que la prière irrigue sa vie de foi. Et il va le montrer par son incarnation, en étant à genoux, et il dit, hein, il témoigne, prier pour ses fidèles, avec ses fidèles, devant ses fidèles. Et la deuxième chose, ce prêtre m'a dit, bah, j'ai repris des heures de catéchisme, parce qu'on a le prêtre a un peu quelque part, bah, un peu délaissé ce catéchisme, et il s'est rendu compte que dans la mémoire de son âme d'enfant, dans la mémoire de ce petit supporter qu'il était, et ben il avait eu besoin d'être initié un peu par un expert. Et peut-être que les enfants pourraient être marqués par le temps passé par le prêtre pour les catéchiser, pour les former, pour leur partager avec son onction de prêtre, et bien cette proximité avec le mystère. Et donc, il s'est obligé à changer un peu ses habitudes, peut-être à externaliser une partie de son gouvernement vers des laïcs et à mieux internaliser et à mieux assumer ben, ce catéchisme auprès des jeunes supporters du Christ et auprès de ses fidèles. Donc c'est voilà, cet acte de foi durant toute une vie doit être vécu, doit être travaillé, doit être entretenu. Tout ce travail de maintenance de notre foi qui est important. Je me souviens d'une sœur de Bethléem qui nous disait « Bossez votre foi, bossez votre foi. » Il y a un trésor dans le magistère qui doit nous amener à bosser notre foi. Ce n'est pas un acquis. On n'acquiert pas notre femme. Et on le dit aussi souvent dans la préparation au mariage, on ne se marie pas pour avoir un trophée. On n'acquiert pas notre foi comme quelque chose de patrimonial, comme une œuvre d'art qu'on va bien poser en disant « Voilà, je suis marqué par cette œuvre d'art et je la laisse au mur et je la contemple. » Non, la foi se travaille, se ripolline, on investit, on désinvestit, on découvre des nouveaux auteurs, parfois on peut évoluer aussi dans nos sensibilités, dans nos lectures. Et c'est un travail, c'est une respiration de tous les jours. En Outre-Manche, vous savez, en Angleterre, qui est un peu le pays du sport, le mot sport vient de l'anglais des sports, et les traditions du rugby, du football sont j'allais dire, s'enracinent en Angleterre. Il y a un célèbre Boxing Day. Et on continue à jouer quasiment tous les 3 jours pendant la période de Noël. Le premier jour ouvrable après les fêtes de Noël, c'est une période très spéciale. Et à l'origine, le Boxing Day, aujourd'hui on en parle énormément parce que les familles sont rassemblées. Et c'est très intéressant, les familles sont rassemblées, on a les oncles, c'est le rassemblement de Noël. Et évidemment, les promoteurs du sport en ont profité, de la même façon que les églises sont ouvertes pour accueillir la ferveur des fidèles, eh bien, tous les stades sont ouverts pour ce Boxing Day et pour accueillir et recommunier ensemble à la ferveur un peu originelle des supporters. Tout à l'heure, je disais qu'on reste fidèle au club de son enfance. Eh bien, c'est l'occasion, dans notre enracinement, alors qu'on habite à Manchester et qu'on est né à Liverpool, eh bien, de redécouvrir la ferveur originelle du supporter de Liverpool. Et le Boxing Day, c'était quoi? C'était, pendant les fêtes, les prêtres ouvraient les troncs des églises, boxing, de la boîte, pour donner leur contenu aux pauvres. Et quand les patrons, eux, offraient des paquets, box, à leurs employés. Et le Boxing Day, qui aujourd'hui est popularisé énormément dans le football aux États-Unis, c'est même aujourd'hui importé dans le rugby en France, c'était vraiment les dates de référence pour les matchs à enjeu. C'est une période évidemment d'intense activité commerciale et familiale, avec des derbies passionnés, des débits de boissons évidemment ouverts tard aussi, dans des stades souvent surpeuplés. Mais l'origine du Boxing Day, c'est la boîte qui s'ouvre pour les pauvres. Et c'est aussi le cœur qui s'ouvre. Et ayons ça en tête. La vie au cœur du stade, c'est une expérience unique. Il y a des cœurs qui se répondent, qui se réjouissent. On a vu le lendemain de l'Immaculée Conception à Lyon, cette année, un immense. Alors que Lyon était complètement planté, perdu aux profondeurs du classement, l'équipe n'avait pas d'âme. Il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. Le COP, donc le groupement des supporters lyonnais, a monté une magnifique banderole Ave Maria qui s'est déployée comme ça dans la grande tribune de Lyon. Et un joueur qui s'appelle Lacazette, catholique pratiquant, ce jour-là a marqué 3 buts. Et donc cette image a énormément tourné. Et on était voilà dans la ferveur de on était après la fête des Lumières à Lyon, vous savez, il y avait un grand Merci Marie sur les hauteurs de Fourvière et cet Ave Maria dans les travées du stade des Lumières à Lyon a beaucoup marqué, a fait le tour du monde. On a aussi en tête l'hommage rendu par le peuple marseillais au pape François. On a vu aussi le visage du pape François qui s'est élevé lors de la visite en septembre du pape François à Marseille et dans l'enceinte du stade Vélodrome. C'est très étonnant. Hein. On est vraiment dans des deux univers de religiosité qui vivent une harmonie œcuménique. Et les orthodoxes, quand ils parlent de l'œcuménisme, ils parlent de la symphonie. Voilà. Et moi, qui aime énormément le sport et qui aime le bon Dieu, je vis ça comme une unité avec une certaine jubilation. Et je suis heureux de partager cette jubilation avec vous, auditeurs de Radio Maria. Et donc, on est vraiment dans ces cœurs qui se répondent, qui réjouissent, cette clameur au moment du but qui est unique. On peut crier. Il y a quelques jours, j'étais avec deux prêtres au Stade français et un joueur parisien, malgré la défaite, à un moment traversé tout le enfin, zigzag et a slalomé entre les défenseurs anglais pour marquer un essai d'anthologie. Tout le monde s'est levé, tout le monde s'est applaudi. Il y avait une espèce de joie comme ça extraordinaire, une voix primale qui s'est exprimée. Et on ne se connaissait pas et on se tombe dans les bras. Et quand on se reverra, on reparlera de cet essai du jeune joueur, je cite son nom, Léo Barré, qui a marqué un essai en solitaire de 70 mètres en traversant tout le terrain. Et donc, ses voisins anonymes d'un jour se tombent dans les bras parce qu'ils sont fiers et ils sont heureux de la victoire qui est aussi quelque part leur victoire parce qu'on a vécu ça par procuration. Il arrive aussi évidemment que surviennent des moments historiques quand le stade précédemment hostile parfois se lève pour applaudir l'adversaire valeureux, quand les drapeaux des tifos s'élèvent pour remercier tel ou tel joueur qui peut être parfois au crépuscule de sa carrière, ou bien ils rendent hommage comme ça, soit au pape, soit à la Vierge Marie, comme ça a été le cas dans le Stade des Lumières à Lyon. Alors il y a certains qui parleront de foule enfiévrée, de bêtises de masse, d'idolâtrie guerrière, de hordes de hooligans. Il y a toujours des excès, c'est toujours tragique, Mais le sport, quelque part, est aussi le reflet hein, de notre société trop humaine, trop réelle. Mais il est aussi, je pense, il peut être aussi en avant. Il y a tout ce débat sur la violence dans les stades. Moi, je pense que le sport peut être aussi à l'avant-garde dans la fraternité, dans cette joie de l'esprit d'enfance. Donc, il y aura toujours des ethnologues un peu froids qui regarderont avec un regard distant les supporters comme un peuple d'enfants, trop enfants ou bien trop peuple, avec une forme de mépris un peu devant cette joie et cette ferveur. Et je crois qu'on a besoin de retrouver cette âme d'enfant, Bernados en a parlé, cette ferveur de l'enfance. Il y a toujours une unicité du moment sportif, comme il y a aussi une unicité dans chaque messe. Les liturgies sportives et chrétiennes, ce ne sont pas du théâtre. Il y a le geste, les célébrants, le décorum, mais il n'y a jamais de scénario écrit à l'avance. Il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de partition. Il y a simplement des moments uniques qui ne seront livrés ou délivrés qu'une seule fois et qui s'inscrivent dans l'histoire et dans les mémoires. Il y a un adage qui dit « les exploits du stade ne survivent pas au coucher du soleil ». Eh bien, il en est ainsi de la messe. L'officiant ne célèbre pas seulement la mémoire de la première Eucharistie, il actualise l'Eucharistie. Par la prière de l'Épiclèse, il invoque et il convoque ici et maintenant l'Esprit-Saint dans le sacrifice de la messe. Le Christ, dans l'apparence du pain et du vin, est réellement présent. C'est ça le mystère de la foi et cette puissance inouïe de la foi. C'est la puissance de la croix, c'est la puissance d'un Dieu qui se fait homme, qui se livre pour l'humanité, qui s'offre vulnérable ici et maintenant dans le pain de l'Eucharistie. Quant à nous, on est spectateurs de ce mystère, on est parfois un peu anémiés et passifs, et on peut subir ces messes parce que nous en connaissons trop le rituel, les mouvements et les gestes sans en goûter la saveur. Le grand stade, comme la cathédrale de Pierre, ils offrent un décorum unique et une liturgie qui transporte et qui rassemble. Mais je pense que l'Église va beaucoup plus loin que le stade. L'architecture de l'Église, d'ailleurs, le montre, presque anthropologiquement. Le stade est une arène circulaire. Ses joueurs et célébrants, ils officient au centre, devant des milliers de regards et de cœurs convergents. Quelque part, on y célèbre l'humanité, l'homme, son centre, parfois même son nombril. Après les réjouissances, le lieu se vide et il se désacralise. Le temple est abandonné, l'espace peut être un espace fantôme, encore hanté par les émotions du passé. Les banderoles sont parties, il reste des gradins gris et vides. Imaginez son mouvement naturel, finalement. Un stade est rond, une aréna, c'est ronde, il tourne sur son axe, il se célèbre. C'est comme si la vitesse se transformait en toupie. C'est la métaphore d'une société de la vitesse dont les mouvements centrifuges, finalement, éjectent en quelque sorte les plus légers. Le stade, comme une toupie, comme une soucoupe volante, en tournant de plus en plus vite, c'est comme la vision d'une société du progrès qui célèbre son ventre, qui célèbre son centre, qui pèse un peu sa panse d'une société du déchet qui aussi peut purger et qui peut expulser. La géographie d'une église, elle est tout autre. C'est pour ça que les églises dans les années 70, comme ça, centrées autour du nombril, n'ont pas beaucoup de sens. L'église est un vaisseau tourné vers l'Orient. La proue du navire, elle accueille le soleil levant, la lumière du ressuscité. Elle avance et elle héberge notre humanité pour la célébrer, mais surtout pour la transformer. Saint Maxime, le confesseur, rappelle que l'architecture d'une église représente un corps humain. Le sanctuaire, l'espace du prêtre, en est la tête. Le transept, l'espace de la diaconie, représente le cou et les bras. Et la nef, l'espace des fidèles laïcs, en est le corps. Nous sommes décentrés. La nef nous invite à prendre la mer pour communier au mystère. Et surtout, elle nous éloigne de nos références humaines trop humaines, quand la terre crie vers le ciel pour que le ciel rejoigne la terre. Guy Novès, qui est un grand entraîneur du club de Toulouse, disait qu'au rugby, il n'y a pas de passagers, il n'y a qu'un équipage. Et l'Église est aussi cet équipage. L'Église est un pauvre équipage de rescapés, de baptisés, de chercheurs de Dieu, de bras cassés. Ils se rassemblent dans des nefs mal chauffée, on le voit en cette période de Noël, mais toujours ouverte, toujours offerte. Les pèlerins, ils y accèdent sans contrôle, sans billet, sans code-barre ou passeport biométrique. Ils y cherchent les sacrements, ils y appellent la grâce. C'est toute la différence, vous voyez. J'ai fait ces parallèles suggestifs entre le stade et l'église et on voit à quel point l'église est ce bateau, mais ouvert aux quatre vents. Il n'y aura jamais ce contrôle. L'Église est toujours, toujours ouverte aux mendiants et il y a toujours cette tradition de l'hospitalité monastique, de l'hospitalité eucharistique, j'ose le dire. C'est pour ça que tous les débats autour de vouloir faire payer l'entrée de nos églises, il ne faut pas lâcher là-dessus. L'église est toujours un lieu d'hospitalité et de gratuité. L'église aussi est un mystère de communion, communion des lieux, communion des saints. L'église constitue toujours une zone franche singulière, une zone de don et non pas une zone de droit, où prévaut une règle unique et inédite, celle de l'amour inconditionnel. Et nous cherchons cet espace et nous aspirons à ce mystère. Et comme je le dis et redis, je suis convaincu, et je le dis avec vraiment le regard de la foi, que des millions de nos concitoyens sont sur le parvis de nos églises. Saint Augustin a beaucoup cherché, il disait la chose suivante, « Mon Dieu, je ne te trouvais pas en dehors de moi parce que je te cherchais mal. Je te cherchais en dehors, mais tu étais en dedans de moi. » Je pense que dans la frénésie des stades, dans la ferveur de nos liturgies, dans la fraîcheur de nos églises, nous cherchons encore, nous sommes attirés vers la lumière avec nos âmes d'enfants, parce que fondamentalement, nous voulons Dieu. Nous voulons Dieu et je crois que c'est ce qui caractérise cette humanité. Nous sommes en quête de consolation et nous sommes en quête de lien. Voilà, et je vais terminer un peu cette méditation, mais bien par cette porte ouverte. Nous sommes les chercheurs du Christ pour chercher le Christ. La puissance anthropologique du sport conduit l'humanité à une route qui bien vite finalement se sépare en deux. Il y a cette voie du Christ escarpée, une voie de croix et de foi. Cette route vers le Christ, elle est sinueuse, elle est râpeuse, mais elle est aussi un chemin de joie, nous le croyons. Elle est celle d'une humanité qui reconnaît sa finitude, qui transforme le monde en se laissant transformer. Elle est celle d'une humanité sportive qui transpire, qui met un pas avant l'autre, qui unit et qui s'oublie, qui se donne et qui se dépasse pour la gloire d'un Dieu incarné qui rejoint cette humanité vraiment dans tout ce qu'elle est. Et puis à côté, il y a cette voix de l'homme mue par la tentation de la gloire, tendue vers le progrès, au-delà de l'homme, mais pour l'homme. Ce chemin est celui d'une démesure similaire à celle de la tour de Babel, construite autour d'une humanité augmentée par la foi en sa propre démesure, par la célébration d'une puissance vitale ordonnée à sa propre fin. Et je le dis avec d'autant plus de force et de clameur qu'il y a des lois aujourd'hui contre la vie humaine qui se préparent, lois euthanasiques où on voudrait... ou loi d'avortement, où on voudrait quelque part non pas unir, mais externaliser la vulnérabilité de l'homme, externaliser la souffrance, comme on externalise, vous savez, des business pour les rendre plus rentables, c'est ça. Et on a peur de cette souffrance, on a peur de ce risque qui appelle le lien et la solidarité, et donc on l'évacue et on se donne bonne conscience, comme le pape le disait, il y a des tueurs en gants blancs. Il y a comme un match en quelque sorte entre deux protagonistes célèbres, entre Dostoïevski et Nietzsche. Le jésuite français Henri de Lubac commentait l'affrontement en ces termes. Ces deux hommes, Dostoïevski et Nietzsche, ont vu se scinder en deux le chemin qui part de l'homme, et tandis que l'un devait céder à la séduction de la voix qui prétend mener à l'homme devenu Dieu, au surhomme, l'autre, Dostoïevski, s'est engagé sur le chemin au bout duquel on trouve le Dieu fait homme. Et la foi chrétienne, elle vient sublimer l'humanité merveilleuse célébrée par le sport. Dans cette foi en l'incarnation d'un Dieu fait homme par amour, offert dans sa vulnérabilité à notre humanité déboussolée, elle bouleverse le terrain de jeu et renverse l'ordre établi. L'économie de la foi chrétienne n'est pas celle du monde. Le christianisme y convoque notre personne, l'invitant à s'élever dans l'acceptation de sa faiblesse. Il vient nous propulser dans une autre dimension qui nous transforme par le don de nous-mêmes. Cette bascule, on la fait tous, c'est une métanoïa, une transformation de soi pour partager le trésor de l'humanité. Ce trésor, c'est celui d'être en se donnant. Le sport, il le pressent tout cela. Il l'exprime avec ses mots, avec ses émotions. Il le vit non pas dans la théorie de l'idée, mais dans la réalité de l'action incarnée, avec audace et avec joie. Sur ce terrain un peu boueux d'humanité, nous y voyons la volonté habitée par la grâce. La discipline remplacée par l'amour sans retour, l'adversité vaincue par la sainteté et la compétition balayée par la communion. Dans le sport, je me dépasse Et dans la foi, je me laisse dépasser par le Christ qui ouvre la voie tel un pisteur. Je suis à chaque instant l'athlète de ma vie dans l'exercice plein et souverain de ma liberté. C'est la preuve de son amour divin. Cette liberté, c'est la preuve de son amour divin. Je me sais appelé à ma propre transformation par la grâce du Seigneur qui vient transformer ma nature. Et je travaille ma nature, et je travaille ma nature. Je ne spiritualise pas, mais je sais que je dois travailler pour être meilleur, tout en sachant, vous voyez, que sa grâce sera là, elle va me suffire, et elle vient venir, voilà, habiter ma nature. Et je boite et je suis appelé. Et c'est parce que je boite que je suis appelé comme un pauvre et comme un bienheureux larron. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager, mes amis de Radio Maria, en cette période de Noël, ce parallèle entre le sport et la foi, et puis à la fin cette foi qui vient dépasser le sport. Je cite Sainte Thérèse de Lisieux, vous savez, on dit que le sport, c'est le dépassement de soi, et je pense que la foi chrétienne, c'est le dépassement du dépassement. Et Sainte Thérèse disait à propos du Seigneur, « Mon Dieu, vous avez dépassé mon attente. » Le Seigneur est indépassable et il vient dépasser notre attente, il vient nous combler j'allais dire, cette surprise qui fait que chaque jour, il fait toute chose nouvelle. Voilà, chers amis, très chers amis de Radio Maria, je vous souhaite de tout mon cœur, vraiment dans l'espérance, un joyeux Noël et une belle et très sainte année. Que cette année qui arrive soit une année bénie pour vous, pour vos familles, pour votre foi, que vous puissiez travailler votre foi, vous rapprocher du Christ avec un esprit sportif, donc avec du souffle, avec cette volonté tous les jours de faire un petit pas devant l'autre, cette volonté de ne pas être seul, d'être solidaire, et cette solidarité, elle crée par cette conviction qu'on a plus réellement, vraiment plus de joie à donner qu'à recevoir, et puis c'est en donnant que l'on reçoit. C'est toujours en donnant que l'on reçoit dans cette relation de lien, de communion qui nous unit, et parce que nous serons enracinés vraiment dans cette relation au Christ, et n'oublierons jamais, jamais l'importance du silence de la prière. Du silence de la prière, le Christ nous rejoint, non pas dans la clameur furieuse d'un stade, non pas dans les orgues triomphantes d'une église, même si ça réjouit nos sens, mais dans le silence d'une brise légère.